Jean-Yves Decamp.
Bonjour.
Au programme du journal de 13h.
Eh bien, un journal qui sera quasi exclusivement consacré au sommet du G7 qui va s'ouvrir ce soir à Biarritz et dont le chef de l'État va nous parler dans un instant. L'allocution est prévue pour durer une dizaine de minutes. Nous y reviendrons juste après avec Cyril Graziani pour l'analyse politique. Nous irons ensuite à Biarritz où Donald Trump est attendu cet après-midi. Le président américain qui a multiplié ces dernières heures les petites provocations vis-à-vis de ses partenaires. On n'oublie pas bien sûr le contre-sommet, la manifestation des opposants au G7. Plusieurs milliers de personnes dans le calme, en ce moment même, entre Hendaye et Irun. Et puis on n'oublie pas non plus bien sûr les derniers retours de vacances. La journée est rouge sur les routes, dans le sens des retours, orange pour les départs. Et tout cela sous le soleil et la chaleur. Voilà le programme à 13h20. Donc ensuite, après le journal, nous entendrons le dernier numéro d'Ala Hussarde avec Thomas Legrand. Dans un instant, donc, l'allocution du président de la République qui semble avoir pris un peu de retard. Cyril Graziani, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour. Alors, de
quoi va nous parler Emmanuel Macron? Le climat, la taxation des GAFA, l'égalité homme-femme?
Je voulais m'adresser directement à vous samedi midi, quelques heures avant que ne commence, ici même à Biarritz, le G7. Dans quelques heures, en effet, j'accueillerai à cet endroit même, devant la ville de Biarritz, les chefs d'État et de gouvernement des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon, de l'Allemagne, d'Italie et les institutions européennes. Ces sept grands pays industrialisés, ces sept puissances économiques et militaires que nous formons, partagent les mêmes valeurs démocratiques. Et c'est ce qui fait que depuis 44 ans, une fois par an, nous nous réunissons pour échanger sur les grands sujets du monde et essayer de nous coordonner. Cette réunion, elle est utile, elle est importante. Sans quoi, chacun mènerait son chemin. Parfois, nous serions amenés à nous diviser. Et je crois que ce qui est attendu de nous, c'est plutôt de savoir nous coordonner, agir utilement ensemble. Alors, quels sont, à mes yeux, les enjeux de ce G7? Et, au fond, qu'est-ce que je défendrai en votre nom durant ces deux jours? D'abord, je crois que ce que légitimement vous attendez de nous, tous, c'est de pouvoir assurer la stabilité, la sécurité, protéger la paix dans le monde. Et donc nous allons discuter des grands conflits, ou des grandes situations les plus tendues. L'Iran, la Syrie, la Libye, l'Ukraine, et plusieurs autres sujets de crise à l'international. Sur ces points, nous avons parfois des désaccords. Et ces sujets peuvent parfois vous paraître très loin, mais ils vous touchent au quotidien. Lorsque la France a été frappée par les attentats en 2015, ils avaient été préparés en Syrie par des djihadistes. Si demain l'Iran se dote de l'arme nucléaire, nous serons directement concernés. Si le Moyen-Orient s'embrase, nous serons touchés. Si nous n'arrivons pas à régler la situation en Libye, nous continuerons de subir collectivement ce scandale d'émigration à travers la Méditerranée et le déséquilibre de toute une partie de l'Afrique. Et donc sur ces sujets, je veux que nous puissions obtenir des accords utiles, défendre la paix, éviter les escalades et nous mettre d'accord. Le deuxième grand enjeu de ce G7, ce sera la situation de l'économie mondiale. Et là-dessus aussi, ça vous concerne directement. Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance, créer davantage d'emplois et donc de mieux être dans nos sociétés. J'ai deux objectifs en votre nom durant ces quelques jours. D'abord, convaincre tous nos partenaires que les tensions, en particulier les tensions commerciales, sont mauvaises pour tout le monde. Nous devons réussir à avoir une forme de désescalade, c'est-à-dire à stabiliser les choses et à éviter cette guerre du commerce qui est en train de s'installer partout. Ensuite, je crois que nous devons aussi trouver les nouveaux moyens de faire de la vraie relance, c'est-à-dire de relancer cette croissance. Regardez nos taux d'intérêt, ils sont faibles partout dans le monde. Regardez pourtant cette croissance qui est de plus en plus faible, en particulier en Europe. Nous devons donc être innovants et savoir trouver des accords pour que les pays qui le peuvent puissent faire de la relance, réinvestir dans l'avenir, dans l'éducation, dans la création d'emplois. Et puis le troisième sujet, c'est comment rendre ce monde en quelque sorte plus habitable, meilleur, comment lutter contre les inégalités. C'est ce sujet que j'ai mis au cœur de ce G7. Et je veux qu'il soit utile par des actions concrètes. Alors les chefs d'État et de gouvernement vont s'engager, mais j'ai voulu aussi associer d'autres pays comme l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili, qui sont des grandes puissances démocratiques qui ne sont pas dans le G7, mais engagées sur ces sujets avec nous. Et nous avons associé la société civile, les entreprises, les associations, les intellectuels, les ONG pour avoir des vraies actions. Alors, nous aurons des avancées très concrètes, on les a préparées d'ailleurs hier à Paris, en matière de lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, en prenant des lois nouvelles, en s'engageant chacun à le faire, en investissant pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Nous aurons des initiatives fortes et nouvelles pour l'Afrique. Parce que j'ai aussi voulu mettre l'Afrique au cœur de ce G7. L'Afrique, c'est notre voisin le plus proche. C'est notre quotidien d'aujourd'hui et de demain. Et donc, nous allons aussi investir fortement sur ce sujet avec nos partenaires africains. Nous aurons des initiatives en matière de numérique pour protéger l'information et les démocraties avec cette ère du numérique nouvelle. Vous en faites l'expérience chaque jour. Nous aurons des initiatives également pour rendre notre économie plus juste. On a réussi à engager des dizaines de grandes entreprises et d'investisseurs pour que le but de l'entreprise, ce ne soit pas simplement faire du profit pour les actionnaires, mais qu'elles s'engagent elles-mêmes dans leur quotidien à œuvrer pour plus d'égalité, pour préserver l'égalité entre les femmes et les hommes ou la reconstruire lorsqu'elle n'est pas là, mais aussi mieux partager la valeur ajoutée. Mais au cœur de ce G7, pour lutter contre les inégalités, il y aura le sujet du climat, de la biodiversité. Là aussi, vous savez nos désaccords entre certains pays, en particulier avec les États-Unis d'Amérique. Mais j'ai voulu que ce G7 soit utile, et donc nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi, ici à Biarritz, et à l'appel de la forêt qui brûle, aujourd'hui en Amazonie, de manière là aussi très concrète. Et donc nous allons agir pour l'océan, de manière très solennelle, pour la première fois. Nous allons nous engager avec les transporteurs maritimes pour réduire la vitesse, ce qui est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions. C'est la première fois qu'on le fait, et c'est un vrai changement. Avec les producteurs de textiles, les plus grands du monde entier, presque la moitié de l'industrie, eh bien, ils vont avec nous s'engager pour là aussi réduire les émissions et les déchets. 30% des déchets que vous avez dans l'océan viennent de l'industrie textile. 8% des émissions de CO2 que vous avez dans le monde viennent de l'industrie textile. C'est plus que l'ensemble des vols internationaux et des transports maritimes. Pour la première fois, ils vont s'engager à agir avec des dates, avec des objectifs. Et nous allons œuvrer aussi pour la biodiversité. Et puis l'appel de la forêt, c'est l'Amazonie. L'Amazonie, c'est notre bien commun. Nous sommes tous concernés. La France l'est sans doute encore plus que d'autres autour de cette table, puisque nous sommes amazoniens. La Guyane est en Amazonie. Et donc, sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour investir. D'abord, pour lutter contre ces feux qui sont en cours et aider le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés. Ensuite, pour investir dans la reforestation partout et pour permettre aux peuples autochtones, aux ONG, aux habitants de développer les bonnes activités en préservant cette forêt dont nous avons besoin parce qu'elle est un trésor de biodiversité et parce qu'elle est un trésor pour notre climat grâce à l'oxygène qu'elle émet et grâce au carbone qu'elle capture. Voilà quelques-uns des grands sujets et des enjeux. Nous ne réussirons sans doute pas sur tout. Et ne m'en voulez pas si parfois nous n'y arrivons pas. La France doit faire le maximum, mais nous ne pouvons pas tout seul. Mais je veux que ce G7 soit utile. Et autour de ces trois grands sujets, la sécurité, l'économie et la lutte contre les inégalités, je crois que nous pouvons en faire un rendez-vous essentiel. Notre monde est à un moment de bascule. Et je crois que notre vocation à nous, Français, c'est d'être dans la proposition, l'inspiration, d'essayer de réduire les désaccords, de ne pas céder aux faiblesses du temps présent, d'avoir cet esprit de résistance qui fait de se dire « il n'y a pas de fatalité, on doit se battre et conduire les autres à se battre avec nous contre ces injustices ou ces absurdités ». Alors je vous promets en votre nom de faire le maximum pour mettre mes collègues d'accord sur ces sujets, pour qu'on arrive à faire bouger les choses ensemble. Je sais que d'autres aussi sont complètement en désaccord avec nous et font parfois des sommets alternatifs. J'écouterai aussi ce qu'ils disent, comme j'ai écouté ce matin les propositions ici, des villes, des départements et de la région. Mais je veux vraiment les appeler aussi au calme, à la concorde. Nous avons des désaccords. Parfois, il y a des caricatures. Mais je pense que les grands défis qui sont les nôtres, le climat, la biodiversité, la transformation technologique, les inquiétudes dans notre société, la lutte contre les inégalités, cette insécurité qui est partout dans le monde, nous ne les résoudrons qu'en agissant ensemble, qu'en étant davantage réconciliés. Donc je les appelle vraiment au calme et en leur promettant que j'essaierai d'apporter aussi une part de leur vérité autour de cette table. Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais vous dire ce midi. Je viendrai vous rendre compte de manière régulière de ce que nous arrivons à faire, ou parfois de ce que nous n'arrivons pas à faire durant ces deux jours. Et bien, je voudrais aussi vous dire que j'en ferai un bilan devant vous lundi en fin de journée. Enfin, je veux avoir un mot pour remercier la ville de Biarritz, ses habitants et l'ensemble de nos compatriotes qui étaient parfois ici en vacances. Je sais les contraintes qu'on a imposées à la ville, elles sont normales parce que la sécurité doit être là pour bien accueillir l'ensemble de ses dirigeants et le monde entier. Et je veux vraiment les en remercier. Mais je veux aussi vous dire que ce que nous sommes en train de faire est très important et aura des retombées positives pour notre pays, pour le Pays basque, pour la ville de Biarritz. Parce que nous allons montrer au monde entier la beauté de ce paysage, notre qualité d'accueil, nos traditions, nos savoir-faire, et combien la France est belle, et combien nous pouvons en être fiers. En tout cas, en votre nom, je suis très fier d'accueillir ce G7 en France, à Biarritz, au Pays basque, dans cette région Nouvelle-Aquitaine. Je serai aussi fier de faire en votre nom le maximum, et je serai fier de venir vous rendre compte de manière régulière. C'est à nous de faire, et nous le ferons ensemble. Je vous remercie. Vive la République et vive la France.
Voilà donc pour cette allocution d'Emmanuel Macron en direct de Biarritz sur fond d'océan à quelques heures de l'ouverture du G7, ce G7 dont il a fait l'événement majeur de sa rentrée politique en s'affichant sur tous les fronts. Et donc le dernier en date, la défense de l'Amazonie ravagée par des incendies dont il a fait le symbole de la lutte pour la planète et le climat en prenant de front hier son homologue brésilien Bolsonaro. Alors Cyril Graziani, vous êtes à Biarritz, le climat, la biodiversité, c'est devenu le sujet central de ce G7 et de l'intervention du président ce matin.
Clairement, Emmanuel Macron veut répondre à ce qu'il appelle l'appel de l'océan et de l'Amazonie qui brûle. L'appel de l'océan, il a déjà formulé quelques propositions. Nous engager avec les transporteurs maritimes pour réduire la vitesse sur les mers. Avec les producteurs de textiles pour réduire là encore les émissions. Et puis, il y a cet appel de la forêt, notre bien commun, explique Emmanuel Macron. La France est encore plus concernés que les personnes qui seront autour de la table de ce G7. Eh bien pourquoi ? Parce que nous sommes amazoniens, explique le président de la République, avec la Guyane. Il veut d'abord aider le Brésil, investir dans la reforestation, ce qu'il appelle un trésor de biodiversité. Emmanuel Macron donc axe très clairement son G7, puisque la France en est l'hôte, sur la question écologique. Il veut clairement montrer que la France est en première ligne pour défendre le climat et la biodiversité.
Emmanuel Macron qui a voulu parler aux Français, hein, en votre nom, la formule est revenue à plusieurs reprises.
Ah, la formule est revenue trois fois, c'est assez significatif. Emmanuel Macron, en prenant la parole, en s'adressant directement aux Français, a voulu expliquer les enjeux de ce G7, montrer que derrière les décisions qui seront prises autour de la table, eh bien, ces décisions pourront avoir un effet dans le quotidien des Français. Il a détaillé les différents points qui seront abordés au cours de ces deux prochains jours. D'abord, les enjeux de paix, protéger la paix dans le monde avec les grands conflits, Iran, Syrie, Libye, Ukraine, qui ont des effets sur l'Europe et la France. Et puis, il y a encore deux sujets. La situation de l'économie mondiale, qui concerne directement les tensions commerciales, la guerre du commerce entre les États-Unis et la Chine. Comment rendre ce monde plus habitable? C'est le dernier thème qui sera abordé, notamment comment lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et
Cyril Graziani, à propos de l'Amazonie, le président Bolsonaro a déjà répondu hier soir que les incendies ne sauraient servir de prétexte à des sanctions contre son pays. Alors en attendant la réunion des grands de ce monde, les opposants au G7, eux, manifestaient ce matin, ils y sont toujours, entre Hendaye et Irun, de l'autre côté de la frontière, pour dire justement qu'ils ne veulent plus de ce monde-là. Plusieurs milliers de manifestants de tous horizons. La manifestation avait été déclarée et se voulait pacifique. Mathilde Dehimi, elle l'a été.
Oui, tout à fait. Un cortège très festif, revendicatif, très concerné là aussi et surtout par l'urgence climatique. Ils viennent de passer, il y a quelques minutes, la frontière espagnole direction Irun, le point de dispersion de cette manifestation, mais également le lieu de conférence de ce contre-sommet pendant 3 jours. Un contre-sommet et des conférences suivies notamment par Evangeline, une gilet jaune provençale de la première heure. Elle a été très inspirée par les militants basques et par la convergence des luttes.
À titre personnel, j'en rêve. Et j'y travaille.
Expliquez-moi.
Ben, je pense qu'on arrivera à faire bouger les choses qu'en union, avec nos différences, parfois même quelques divergences, mais l'union est indispensable si on veut arrêter tout ça.
Dans le cortège
Donc, me bats pour la convergence des luttes.
Dans le cortège des militants de la centaine d'associations des plateformes alternatives G7, de nombreux militants basques également espagnols, ils dénoncent notamment les accords bilatéraux et commerciaux du CETA du Mercosur, s'inquiètent aussi du réchauffement climatique. David d'Alternativa dénonce l'ambiguïté justement d'un Emmanuel Macron sur ces incendies en Amazonie.
Bah, si on continue comme ça, on y est quoi. Donc si pour l'éviter en fait, il va falloir changer les choses drastiquement, c'est-à-dire ne pas continuer comme avant, ne pas continuer comme on le fait maintenant, c'est-à-dire dans la consommation et puis dans la culture industrielle, qui est aussi la culture industrielle en France, en Europe, qui est aussi le vecteur de la déforestation et de la destruction de l'Amazonie.
Les membres du G7 sont des pyromanes, entend-on régulièrement dans le cortège. Comme l'avaient demandé les organisateurs du contre-sommet, les forces de l'ordre sont derrière nous, en retrait, à couvert, et les médiateurs de la manifestation sont là pour éviter tout débordement.
Mathilde Dehimi avec Marc Garvenès. Hier soir, des heurts ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre à Urugne, près du camp où réside une partie des militants anti-G7. 17 d'entre eux ont été interpellés. Alors je ferai en sorte que ce G7 débouche sur des effets concrets, disait à l'instant Emmanuel Macron. On sait qu'il ne veut pas d'un communiqué final qui peut être désavoué dans l'heure qui suit par Donald Trump, comme il l'avait fait la dernière fois. On parle ce matin d'une conférence de presse commune Trump-Macron à l'issue du sommet lundi midi, ce qui peut être croustillant vu qu'ils ne sont d'accord sur rien. Bertrand Galichet, vous suivez pour France Inter ce sommet du G7 dont l'issue dépendra en grande partie du président américain, qui est toujours aussi imprévisible et qui vient à Biarritz un peu comme un chien dans un jeu.
Oui, car fidèle à lui-même, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid avant de poser le pied sur le sol français. Après avoir laissé entendre, selon certains médias américains, qu'il considérait les sommets internationaux comme une perte de temps, il a finalement dit s'attendre à des discussions très productives à Biarritz. L'Élysée assure que les présidents français et américains se sont parlé de façon constructive ces dernières 48 heures. Ce qui n'a pas empêché ensuite Donald Trump de jouer les provocations, menaçant de pénaliser lourdement les vins français en représailles à la taxe Macron sur les GAFA. Donald Tusk vient d'ailleurs d'annoncer qu'il ne laisserait pas faire sans réagir. La détermination des États-Unis à accentuer la guerre commerciale avec la Chine inquiète les autres participants au sommet. Et puis parmi les Européens qui accueillent pour la première fois Boris Johnson en tant que Premier ministre britannique, eh bien chacun se demande quel rôle jouera Donald Trump dans la forme que prendra le Brexit. Dans l'allocution d'Emmanuel Macron que nous venons d'entendre, le président français, au fond, n'a pas caché ses différends avec Washington, notamment sur le climat.
Alors Donald Trump qui a atterri à Bordeaux il y a un peu moins d'une heure, que sait-on de son programme précisément cet après-midi ?
Très peu de choses en fait. Les Américains se montrent peu bavards, sécurité oblige, sur les activités de leur président, dont l'avion portant le drapeau des États-Unis vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Biarritz. Il a ensuite emprunté un convoi de voitures noires en compagnie de son épouse. Et surtout, Donald Trump, imprévisible, peut décider à la dernière minute de rencontrer tel ou tel dirigeant du G7, si leur agenda le permet. On ne sait même pas à l'heure actuelle si un entretien Macron-Trump aura lieu dans l'après-midi ou plus tard au cours du sommet. En revanche, l'Élysée dément les rumeurs venues d'outre-Atlantique selon lesquelles le président américain aurait pu boycotter ce soir le dîner d'ouverture.
Oui, ce serait quand même énorme. Bertrand Galichet à Biarritz. À propos des menaces de Donald Trump sur les vins français qu'il voudrait surtaxer en représailles à la taxe GAFA, les maires de Bordeaux et de Libourne ont prévu de lui offrir une bonne bouteille, en l'occurrence un Saint-Émilion, pour lui faire mesurer l'excellence de nos terroirs et l'amener à la bienveillance. En bref, un échec pour Soyouz, le vaisseau spatial qui emportait à son bord un robot humanoïde. Le premier robot envoyé par la Russie dans l'espace n'est pas parvenu à s'arrimer à la station internationale. Il a dû s'éloigner à distance de sécurité avant de retenter l'opération, peut-être lundi matin. Et puis en sport, l'affiche du jour dans moins d'une heure, c'est bien sûr du rugby. Écosse-France à Édimbourg, deuxième match de préparation pour la Coupe du Monde. Des Écossais revanchards après leur défaite de la semaine dernière, 32-3. Coup d'envoi à 14h10. Une opération péage gratuite matin sur l'autoroute A11 à Ancenis. Des gilets jaunes ont ouvert une barrière, ce dont ne se sont pas plaints les automobilistes, évidemment nombreux pour ce dernier week-end des grands retours, notamment sur l'A7 en vallée du Rhône, Romain Berchet.
Oui, en direction du sud et de la mer, vous mettez 2h30 de Lyon à Orange. C'est une heure de plus que d'habitude et vous êtes surtout ralenti au sud de Montélimar sur 20 km. Dans l'autre sens, d'Orange à Lyon, situation quasi semblable, vous perdez 50 minutes sur le temps de parcours. Ailleurs, le trafic est dense également sur l'A10 de Bordeaux à Poitiers. Comptez 4 heures pour rejoindre les deux villes en direction de Paris contre 2h10 en temps normal. Les difficultés se poursuivent si vous continuez la route sur l'A10 aux abords de Tours et Orléans. Enfin, c'est chargé sur l'A9 à la frontière espagnole jusqu'à Narbonne où vous mettez 1h30 au lieu de 50 minutes normalement.
Romain Berchet au PC Mobilité de Radio France. Le temps, Jean-Michel Golinski.
Week-end placé sous le signe de la chaleur et du soleil sur la plupart des régions, un ciel bien dégagé grâce aux hautes pressions sur l'Europe de l'Ouest. Toutefois, l'anticyclone marque quelques faiblesses près de l'océan. En conséquence, le ciel de la façade atlantique sera plus mitigé qu'ailleurs. Il y aura même des entrées maritimes, notamment sur le Finistère et le Pays Basque, entre la fin de cet après-midi et le milieu de la matinée de demain. Et puis notez que le temps instable et orageux qui circule sur l'Italie va encore temporairement déborder ce week-end sur la Provence et sur la Corse. Les températures plus élevées que les normales vont afficher 30 degrés en moyenne cet après-midi près de la Méditerranée et 30 à 35 en allant de la partie nord vers le quart sud-ouest. Des valeurs qui vont un peu baisser demain sur les régions de l'ouest mais augmenter plus à l'est.